Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Un magazine sur le patrimoine, les coutumes et les traditions. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancel 106.3 et Fréquence Sillé 97.9. En partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
Il existe à la sortie de Conly un étrange monument au haut d'une route qui mène à Sillé. Alors peut-être vous êtes-vous posé la question de savoir que commémorait ce monument. Eh bien nous en parlons aujourd'hui puisque nous allons parler du camp de Conly et de ses soldats bretons. Nous recevons Frédéric Beauchef pour nous parler de ce camp de Conly.
Bonjour.
Vous êtes juriste spécialisé en droit des collectivités locales et assistant parlementaire. Et vous êtes également passionné par l'histoire de votre département, puisque vous êtes natif du Mans, et par la vie politique en général et par la Troisième République en particulier. Alors, pourquoi vous êtes-vous particulièrement intéressé à ce camp de Conly? Est-ce qu'on manquait de documents face à ce camp de Conly? Est-ce qu'on manquait de précision? Est-ce qu'il était nécessaire de faire un ouvrage?
Un ouvrage spécifiquement sur le camp de Conly, non, puisqu'il en existe déjà un qui fait référence en la matière, et je vais vous en parler dans quelques secondes. Mais c'est vrai que le livre que j'ai publié aux éditions Libra Diffusio regroupe tous les événements qui se sont produits lors de la guerre de 1870 en Sarthe. Alors c'est vrai que il y a deux événements connus qui sont la bataille du Mans et le camp de Conly, qui sont les deux éléments les plus connus, mais l'histoire du camp de Conly s'intègre dans l'histoire de la bataille du Mans, qui est en fait une bataille qui concerne quasiment tout le département, puisque les Prussiens, je le rappelle, donc à l'époque c'était l'Allemagne n'était pas encore entièrement constituée, donc les Prussiens ont envahi la France, et parmi les derniers combats se sont déroulés justement les combats du Mans, mais qui ont commencé dans l'est du département, se sont poursuivis au Mans, ensuite sont allés un petit peu plus au nord et à l'ouest du département, puisque les troupes françaises ont fini par refluer en Mayenne. Donc c'est vraiment un conflit qui a concerné tout le territoire départemental et qui s'est poursuivi par une occupation, puisque les Prussiens et les autres troupes allemandes ont occupé le département.
Alors, ce camp de Conly, donc, est-il sur une voie stratégique? Parce que, bon, vous allez nous rappeler un petit peu dans quelles circonstances il a été constitué. Pourquoi spécifiquement à cet endroit?
Alors, ça nécessite de brosser un petit peu le tableau de l'époque, puisque c'est vrai que la guerre de 1870 est aujourd'hui méconnue. On connaît Sedan. On connaît la chute de Napoléon III à Sedan. Par la suite, évidemment, le Second Empire s'étant écroulé, il y a eu un mouvement de résistance organisé par les débuts de la Troisième République. En l'occurrence, l'armée impériale était décapitée et la République a voulu poursuivre les combats. Elle a organisé différentes armées. Il y a eu une armée de la Loire qui s'est battue principalement, comme son nom l'indique, sur les bords de la Loire, à Orléans, et puis qui a fini son existence au Mans, à l'issue de la bataille du Mans. Et la République a souhaité, en parallèle, constituer une armée dite armée de Bretagne. Et c'est le destin de cette armée de Bretagne qui est évoqué dans le livre et qui va se terminer à Conly, puisque l'histoire du camp de Conly, c'est véritablement une affaire d'État pour l'époque, puisque la République a mobilisé les hommes, a voulu faire une levée en masse pour défendre le territoire national face à l'invasion. Mais les Bretons avaient à l'époque cette réputation d'être plutôt conservateurs et royalistes. Et la jeune République a changé de cap en cours de route. C'est-à-dire qu'elle a permis la mobilisation de ses soldats bretons, mais les a laissés, on peut le dire, croupir à Conly, sans les utiliser ou en les utilisant d'une mauvaise manière. Et c'est là tout le scandale de cette histoire du camp de Conly.
Alors justement, pourquoi Conly? Est-ce que ça avait un intérêt stratégique particulier?
C'est vrai qu'il faut que je réponde à votre question quand même. Pourquoi Conly? En fait, oui et non. C'est-à-dire que le gouvernement souhaitait réunir les troupes bretonnes pas trop loin de la Bretagne, mais pas en Bretagne. Donc ils se sont posé la question en Mayenne, en Sarthe. Le Mans a été choisi. Pendant un moment, c'était plutôt en avant du Mans, c'est-à-dire à l'est du Mans. Mais rapidement, ils se sont dit que d'avoir une ville qui protégeait ce camp d'instruction qui était en construction, pourquoi pas effectivement le faire à Conly. Mais il aurait pu être fait ailleurs. Hein. C'est un hasard. On pensait pas à l'époque que les Prussiens iraient aussi profondément dans le territoire national. On pensait que les combats pourraient se dérouler autour de Paris à la rigueur, puisque Paris était encerclé, mais pas aussi loin. Et donc c'est vraiment à l'origine un camp d'instruction. On n'imaginait pas que la Sarthe puisse être envahie.
Donc c'est un petit peu de l'improvisation.
C'est totalement de l'improvisation, cette histoire.
Un petit peu au jour le jour. Voilà.
Et c'est ça qui est intéressant et déroutant dans cette histoire, c'est qu'on assiste à une improvisation totale de l'organisation d'une armée dans un État qui est lui aussi totalement désorganisé.
Ces Bretons sont volontaires.
C'est vraiment la spécificité de cette histoire, parce que la patrie était en danger. Partout en France, on a essayé de constituer des armées de volontaires, puisque les soldats qui étaient sous les drapeaux, malheureusement, étaient soit battus, comme à Sedan, soit dans des situations militaires encerclées, comme autour de Metz ou à Paris. Et donc la jeune République a voulu mobiliser le ban et l'arrière-ban. Et tous les volontaires issus des 5 départements bretons, puisqu'on parle non seulement des 4 départements bretons actuels, mais aussi de la Loire-Atlantique, ont été réunis afin d'être formés et équipés à Conly. Enfin, c'était l'objectif.
Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que bon, la Bretagne, comme vous le disiez, est royaliste. Alors comment est-ce qu'on a réussi à soulever à mobiliser des hommes dans des régions royalistes pour sauver la patrie, la
Alors,
République.
Oui, parce que c'est là toute il y a deux côtés. En fait, c'est vrai que à l'époque, la Bretagne a plutôt un tempérament royaliste. En revanche, c'est pas une histoire de régime, c'est pas une histoire de royauté, de république, c'est une histoire de patriotisme. C'est-à-dire que la France a été vaincue, certes la France de Napoléon III, mais la France, c'est quand même autre chose qu'un simple régime politique. Donc ça parlait à tous les Français de devoir s'armer pour défendre la patrie. Donc les Bretons, comme et plus que même d'autres Français, puisqu'en fait, il n'y a pas eu une mobilisation aussi forte partout dans le territoire national, mais les Bretons ont répondu à l'appel de la défense de la patrie, indépendamment de leurs opinions politiques.
Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancelle 106.3 et Fréquence Sillée 97.9 en partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
Et la Bretagne était considérée comment? Est-ce qu'elle n'était pas justement au banc un petit peu de cette patrie, considérée un petit peu comme des sous-citoyens?
C'est ce qu'on va découvrir dans la gestion du camp. À l'origine, non, puisque en fait, Gambetta, qui dirigeait le pays à l'époque, avait confié à Émile de Kerati, qui est à l'origine de ce projet.
C'est un nom bien breton.
Oui, bien breton, de constituer donc cette armée de Bretagne. Il a fait le tour des départements bretons, il est allé dans toutes les villes pouvoir promouvoir cette idée. Ça s'est fait très rapidement puisque la décision a été prise fin octobre et déjà au mois de novembre, il y avait déjà plus de 35 000 soldats sur le camp de Conly. Donc ça s'est fait très rapidement, les gens n'ont quasiment pas besoin d'être convaincus puisqu'ils se sont mobilisés. Mmh. Ils sont venus à Conly avec la promesse d'être armés, d'être équipés et de pouvoir aller justement combattre les Prussiens et leurs alliés pour essayer de libérer la France. Après, au fur et à mesure, Gambetta, qui avait pris le pouvoir, avait deux objectifs. Il avait évidemment un objectif de contrecarrer les ambitions prussiennes, mais il avait aussi l'objectif d'installer la République en France. Et c'est là où les deux objectifs sont entrés en contradiction, puisque Gambetta et ses proches ont changé d'avis, ont changé de pied, et au fur et à mesure de la constitution de cette armée de Bretagne, se sont dit, mais après tout, est-ce qu'on fait pas une erreur? Est-ce qu'on n'arme pas une armée de chouans? Est-ce qu'on va pas avoir un problème avec cette armée qui, à un moment ou à un autre, pourrait se retourner contre la République?
Donc une confiance limitée.
Une confiance très limitée, un enthousiasme au début, ensuite une confiance limitée qui s'est transformée en défiance, puisque On a baratiné les Bretons, en l'occurrence, puisque on leur a promis des équipements, des armements, une formation. Et au fur et à mesure, Gambetta, là, on a un certain nombre d'éléments qu'on peut retrouver, hein, qui sont publics, qui ont été repris dans des rapports parlementaires à l'époque, où on voit que des ordres au plus haut niveau du gouvernement étaient donnés pour ne pas armer les Bretons et pour ne pas les équiper. On les a laissés dans un camp, on va y revenir peut-être sur les conditions de vie tout à l'heure, mais dans un camp insalubre, sans armes, sans équipement, sans directive.
Alors Frédéric Beauchef, est-ce que c'est vrai cette histoire d'armes de la guerre de sécession? Est-ce qu'on, initialement, on avait prévu de les équiper avec ces fameux fusils qui étaient envoyés par les Américains?
Oui, en fait, parce qu'on est quelques années après la guerre de sécession, il y a un stock d'armes important aux États-Unis et à l'époque, l'armée française, comme je le disais tout à l'heure, n'a plus de moyens, on est obligé de réarmer, de recréer une nouvelle armée. Et donc les gouvernements, mais aussi les autorités locales, vont un petit peu à la chasse aux armes partout où on peut en trouver. Il y a des achats qui peuvent se faire dans d'autres pays européens, en Belgique par exemple, mais le gros stock d'armes est aux États-Unis et régulièrement la France achète par bateau entier des armes aux Américains. Des armes qui étaient promises aux Bretons, en partie. Il y a des épisodes célèbres comme le bateau le Saint-Laurent, par exemple, qui devait accoster à Brest pour donner ses armes et qui, en fait, ira au Havre en raison d'ordre du gouvernement, justement pour ne pas équiper les Bretons, mais pour équiper d'autres forces armées. Et toutes ces armes vont manquer aux Bretons.
Alors, du coup, par manque d'armes, ils sont consignés au camp, en quelque sorte, hein, en attendant ces hypothétiques arrivées d'armes. Et là, on se retrouve dans des conditions climatiques spécialement épouvantables, puisqu'on parle de pluie torrentielle et que le camp se transforme en Kerfranc, dit-on en breton.
Voilà, c'est ça le camp de boue. Effectivement, on est en novembre, on est octobre, novembre, décembre et en janvier, donc des périodes où le climat est assez rude, avec un hiver très très froid. Je ne sais pas si on peut faire une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est encore plus froid, même notamment le mois de janvier se passe sous la neige avec beaucoup des températures très basses. Donc on laisse ces hommes dans la boue. Il s'agit, en fait, vous avez parlé du lieu géographique, effectivement, sur la route de Ciel-Guillaume, quand on part de Conlie, on voit ce monument.
La colline de la Genelière.
Voilà, c'est ça, un petit peu en contrebas, on retrouve la Genelière et les autorités ont décidé, là, tout autour de ce site, de créer un camp de 500 hectares. C'est énorme, mais c'est vrai qu'il est destiné à accueillir 50 à 60 000 personnes, mais c'est un camp de tentes, c'est-à-dire qu'on est sur des terrains agricoles sur lesquels on a mis des tentes, avec un minimum de drainage, avec un minimum d'arrivée d'eau, et on laisse ces gens-là sous leur tente, passer l'hiver, désœuvrés, non seulement sans armes, mais aussi quasiment sans instruction, puisqu'on fait quelques manœuvres de temps en temps, mais c'est plus pour occuper que vraiment instruire les soldats.
Alors il paraît que le camp avait été labouré même avant leur venue.
Alors, peut-être, mais c'est vrai que sur 500 hectares, il doit être certainement une partie qui devait être labourée. Je ne sais pas si les 500 hectares en eux-mêmes étaient tous labourés, mais il suffit d'y aller autour. Hein. On voit que c'est effectivement une bonne terre, bien riche, bien grasse.
Et, c'est toujours pas construit.
C'est encore un espace agricole. Mmh.
Alors donc des conditions de vie particulièrement effroyables, qui dit conditions de vie effroyables, froid, dit maladie.
Oui, alors il ne faut pas exagérer non plus, tous les soldats, qu'ils soient bretons ou les autres soldats enrôlés sous la bannière de la République, hein, du gouvernement de défense nationale, partagent les mêmes conditions de vie. C'est-à-dire que c'est pas des conditions de vie modernes. On est quand même en 1870-1871. Donc, on a un rapport avec l'endurance et la vie humaine qui est un petit peu plus brutale que ce qu'on peut considérer aujourd'hui. Mais c'est vrai que on l'imagine bien, être parqué à 50 000 sur un terrain boueux avec des tentes, avec très peu d'eau, les maladies se développent comme dans toutes les armées du conflit. On a un certain nombre de morts à Conlie, mais il n'y a pas eu à Conlie, il y a eu moins de morts qu'au combat par exemple.
Alors combien de morts à peu près?
C'est difficile à dire parce que officiellement, sur le camp lui-même, l'administration a fait fait en sorte de limiter les statistiques. Mais beaucoup de soldats, enfin de soldats, parce que c'était vraiment des soldats, puisqu'ils n'étaient pas vraiment ni équipés ni formés, mais beaucoup sont partis, en fait, ont été évacués et sont morts après, en Bretagne ou dans d'autres lieux, sans qu'on puisse les comptabiliser vraiment, quelques milliers, certainement quelques milliers, mais c'est difficile à dire de manière précise. Est-ce qu'ils sont morts des suites du mauvais traitement, des suites de maladies? C'est quasiment impossible à dire.
Pourquoi est-ce qu'on a occulté cette histoire si longtemps? C'est une sorte de honte pour la République?
Mais il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect honte, parce que et voilà, il n'y a rien de glorieux à avoir laissé des gens comme ça. Et il y a un aspect politique aussi, c'est-à-dire que la bataille du Mans s'est soldée par une défaite. Et dans l'organisation de ce régiment, enfin de cette armée de Bretagne, il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps où effectivement on a réuni les personnes, puis on les a laissées tomber. À la fin du mois de novembre 1870, il y a une partie des soldats qui vont être détachés de ce camp, qui vont être armés, équipés, et qui vont aller à l'avant de l'ennemi, revenir au Mans, et en fait pas être utilisés vraiment de manière opérationnelle, mais ils vont être en première ligne lors de la bataille du Mans, et ils vont participer directement à la défaite. Alors bien malgré eux, puisqu'ils étaient mal équipés, avec des armes qui étaient souvent rouillées, enrayées, avec des cartouches qui correspondaient pas au calibre de l'arme, mais ils vont être mis en première ligne. Et notamment, donc, lors de la nuit du 11 au 12 janvier, ils seront placés dans une ferme qui s'appelle la Tuilerie, à côté du Tertre Rouge, au Mans, où ils vont faire face à l'avancée prussienne, et ces troupes vont se débander, vont partir sans combattre face à l'ennemi. Alors on a une époque où on fait la guerre par grand régiment, un petit peu à la façon napoléonienne. Donc ces troupes-là vont partir et directement on va accuser les Bretons d'avoir précipité la défaite du Mans. Donc on va instrumentaliser les Bretons qui malgré eux étaient mal équipés, on va les instrumentaliser en disant c'est de leur faute.
Voilà, donc on leur fait porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Donc, en fait, on légitime un petit peu ce camp de Conly. Pour retrouver dans le détail, évidemment, cette tragique histoire, on peut se procurer votre ouvrage, Frédéric Beauchef, dont on va rappeler le titre.
Oui, ça s'appelle 1871, Le Mans, une bataille oubliée. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, maisons de la presse.
Et aux éditions?
Aux éditions Libra Diffusio.
Je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous le présenter.
Je vous en prie. Merci à vous.
Merci.
Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Un magazine sur le patrimoine, les coutumes et les traditions. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancelles 106.3 et Fréquence Sillé 97.9 en partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe. Cette émission était préparée et présentée par Patricia Prévost
et réalisée par Jean-Michel Pantier.